C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Juste avant d'aborder le premier sujet, réaction comme ça rapide, pas un vrai débat sur le débat présenté hier soir, Nathalie?
Oui, j'ai écouté le débat. J'ai pas appris grand chose, bien honnêtement. Ce qui m'a fatigué, c'est l'overlapping, là. Honnêtement, ça, c'était dérangeant, là.
Ouais.
Mais en même temps, c'est un face-à-face. J'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait de gagnant. C'est vrai que Trudeau, à un moment donné, Justin Trudeau, était combatif. J'ai déjà dit, moi, que Aaron O'Toole est un homme qui gagne à être connu. Hier, j'ai trouvé que c'était plutôt bien débrouillé. Et jusqu'à maintenant, ben, il y a une tendance qui semble être favorable sur le plan des sondages à Aaron O'Toole.
Comment t'as vu ça, toi?
Moi, je me désole de voir que, bon, on connaît tous les défauts des libéraux, là, puis leur tentative de dépenser le plus d'argent possible par jour. Et ça, évidemment, c'est désolant parce que c'est une nouvelle approche où tu dis, on va faire augmenter la dette, c'est pas grave, on est le pays qui a le ratio de dette PIB le moins élevé dans le monde, fait que, ah ouais, dépensons. Cette tendance-là, je trouve ça quand même dangereux. Mais de l'autre bord, du côté d'O'Toole, je vois pas de solution. C'est un homme pour moi qui est sans solution. Sans solution pour le climat, sans solution pour le virus, sans, pour la pandémie, sans solution pour les systèmes sociaux canadiens, etc. Fait que je me désole. Alors, je trouve que Singh a le courage de ses convictions. Et ça me plaît beaucoup.
OK. Bon, le sujet ce matin, le rapport préliminaire de la commissaire à la santé, Mme Castonguay, sur l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée, les RPA et tout ça. Elle dit que d'autres rapports vont suivre. Elle parle de problèmes administratifs qui remontent à probablement la création des centres de soins de longue durée. Nathalie.
Ben moi, j'ai envie de vous dire, c'est un Xème rapport. Et j'ai lu le rapport préliminaire de 49 pages hier. Je passe au travers. Et c'est pas un rapport qui s'adresse au grand public, là. J'ai trouvé que c'est un rapport qui était assez hermétique quant à son langage. Je me suis dit, mon Dieu, on dirait que c'est encore un langage de fonctionnaire. Tu sais. Je me disais, mettons, là, t'es mon père, ma mère en CHSLD, juste ce rapport-là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour me rassurer? Pas grand-chose, parce que les recommandations qui sont formulées, puis loin de moi de minimiser le travail qui était fait, là, j'écoutais Mme Castonguay à ton micro un peu plus tôt, mais ça manque de concret. Concret, là. Par exemple, là, créer là de meilleurs suivis à l'intérieur du système, là, puis faire en sorte que sur le plan administratif, on partage davantage d'informations. Concrètement, pour une personne dans son lit, là, qui attend 20 minutes avec sa couche souillée avant d'avoir un préposé aux bénéficiaires, ça change quoi? Ça change absolument rien. Dans le fond, les aînés qui sont en CHSLD ou les personnes qui sont en CHSLD, ce qu'ils veulent, c'est des soins adaptés à leurs conditions. Ils veulent que leur nourriture soit bonne, soit chaude. Lorsque c'est le temps de changer leur couche qui est souillée, ils veulent que ça se fasse le plus rapidement possible. Ils veulent être divertis de temps en temps. C'est relativement simple, dans le fond. Fait que ce rapport-là s'ajoute à tous ceux qui ont été déposés avant aujourd'hui. Puis je me dis en quelque part, j'espère que le rapport final va nous apporter des solutions plus concrètes et des constats plus concrets. Je reviendrai après Luc parce qu'on a quand même appris certaines choses, mais en même temps, ça prend pas un rapport de 300 pages pour savoir que la crise qu'on a connue, qui est, comme elle l'a dit Mme Castonguay, qui est unique dans l'histoire, c'était quoi finalement? C'était un réseau désorganisé qui n'était pas prêt à faire face à la pandémie à laquelle on était confronté, à la première vague à laquelle on était confronté.
Luc, là, je suis désolé Nathalie, mais je suis vraiment pas d'accord avec toi. Enfin, ça arrive un vendredi, que si tu veux, c'est fait. On va traîner ça de la fin de semaine, mais bon, pas d'accord pantoute. Au contraire, je trouve que ce rapport opérationnel, moi je m'en fous de ce que les gens vont penser dans leur lit. C'est parce que c'est extrêmement difficile à gérer. C'est un langage de gestionnaire pour des gestionnaires. Ça fait des années qu'ils sont pas capables de gérer le problème. Pourquoi? Parce que, c'est un service 24-7. Un service 24-7, c'est très difficile à gérer. Parce que tu as besoin de personnel de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Personne ne veut faire soir, nuit, fin de semaine. Première chose. Deuxièmement, c'est un service qui intègre beaucoup de niveaux de profession différents. Préposés aux bénéficiaires, infirmières spécialisées, médecins. Troisièmement, ça a toujours été traité comme le parent pauvre de la santé. Fait que qui on a nommé pour les personnes âgées, on a nommé Marguerite Blais. On n'a pas nommé un super ministre opérationnel, on a nommé une communicatrice. Et il y a des ministres super, c'est Sonia Lebel, monsieur Dubé, il y en a là, mais c'est pas à eux qu'on a donné la job dans un premier temps. Et quatrièmement, ce sont c'est 6% des personnes âgées, donc les gens qui sont les plus lourds, des plus lourds, des plus lourds. Et donc ça, s'occuper des gens des plus lourds, c'est difficile, il faut de la motivation permanente. Alors le réseau était en lambeaux. Et le rapport, moi, je trouve que le rapport a ceci de bien, qu'il fait une analyse exhaustive des opérations. Les ressources. Est-ce que les ressources sont au rendez-vous? Ressources en termes de nombre d'infirmières, nombre de préposés aux bénéficiaires, heures supplémentaires, absentéisme. Deuxièmement, la gestion. Qui encadre? Qui donne les cibles? Qui donne les règles? Qui vérifie? Troisièmement, l'intégration des soins. Lorsqu'une personne âgée a un problème, qui est suivi par un médecin dans un CIUS, mais il y a un médecin qui est sur place aussi. Est-ce qu'il y a une intégration du dossier? Est-ce qu'il y a une communication? L'infirmière, est-ce qu'elle est au courant du dossier? L'intégration des soins, c'est un énorme problème. Alors, je pense que ce premier rapport-là, tu as certainement raison de dire que le langage est peut-être un peu léger des fois.
Pas léger, hermétique.
Hermétique, je pense qu'il va dans la bonne direction, puis il faut qu'il soit complété par d'autres rapports pour finir à un tout qui va avoir de l'allure.
Quand tu dis, Luc, c'est un rapport de gestionnaire pour des gestionnaires, c'est probablement ça un des problèmes dans notre réseau de la santé. On se parle trop, on a trop un langage bureaucratique. Il y a trop peut-être de gestionnaires. Il faudrait peut-être revenir sur le plancher des vaches. C'est vrai que le rapport fait des constats fort intéressants. Par exemple, on apprend qu'entre 2015 et 2020, le nombre de cadres a diminué, le nombre d'infirmières a augmenté et de préposés aux bénéficiaires a augmenté. On apprend aussi que l'augmentation du travail des heures supplémentaires a augmenté de presque 150% entre 2019 et 2020. Mais est-ce qu'on parle de la lourdeur de la tâche? Allez voir sur le terrain, là, les préposés, les infirmières vont vous dire ce dont on ne parle pas assez, c'est la lourdeur de la tâche. Les cas dans les CHSLD, les cas, les personnes qui sont là, les êtres humains qui sont là, sont de plus en plus, hypothéqués. Et la pandémie a contribué à exacerber ça parce que qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie? Les personnes sont demeurées dans leur chambre. Alors, leur masse musculaire s'est atrophiée.
Oui.
Elles ont plus de difficultés à se déplacer. Ça, on est sur le plancher des vaches, là. Alors, ce qu'on apprend également, c'est que l'âge médian au Québec, là, est en constante augmentation depuis 1971. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population vieillit. Ça, on le savait déjà. Mais concrètement, quelle révolution on fait opérer en matière de soins aux personnes âgées? Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pas là un rapport puis un autre rapport. Parce qu'en passant, ce rapport-ci va s'ajouter à celui de la protectrice du citoyen puis à l'enquête qui est en cours de la part de la coroner.
Là, t'as un point, là, sur le nombre de rapports. Mais regarde, moi, tu sais que je suis assez critique, hein? tu le dis souvent.
mais non.
T'as la critique sympathique quand même.
Mais pour Monsieur Legault, il y a un domaine dans lequel je ne suis pas critique du tout. C'est la réaction rapide sur les soins de longue durée. Écoute, là, depuis que le gouvernement est arrivé, ça fait pas 100 ans. Il a commencé par, je l'ai dit souvent, il a commencé par nommer Marguerite Blais, puis d'envoyer 150 millions pour diminuer le coût des stationnements. Ça, c'était pas deux décisions qui allaient aider à la crise qui s'en venait. Mais après, quand la crise est arrivée, un instant, premièrement, augmentation du nombre de préposés. Pas juste augmentation, là. Pas juste, je mets une annonce dans le journal, je les forme.
Non, ça, c'est en ça, on reconnaît ça.
Après ça, modification de du salaire. Augmentation de salaire. Système de bonus pour avoir du monde le soir, la fin de semaine. Nomination d'un cadre de gestion par CHSLD.
Mais ça veut dire qu'il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas. Ouais, c'est
il y a
ça.
Quelque chose d'aberrant.
CHSLD avait un gestionnaire. Mais certains en avaient, mais pas tous, effectivement. Pas tous.
Là, la prochaine
il y en avait
étape,
régionalement.
Je l'ai entendu dire ça, mais moi, je peux vous dire que dans ma région d'origine, Gaspésie, il y en avait. Dans le CHSLD où est mon père, il y avait un gestionnaire.
Pour la Gaspésie, c'était du favoritisme pour la Gaspésie.
Ah, peut-être.
Couper son micro, s'il vous plaît, M. Arcand. Non, mais quand je dis ça prend une révolution en matière par rapport à notre approche pour les personnes âgées, il n'y a pas personne qui va nous obstiner là-dessus, mais l'appareil gouvernemental pense en silo. C'est extrêmement difficile de créer une dynamique. Évidemment, elle écorche les CIUS puis les CIS. C'est lourd. La bureaucratie va tuer notre réseau. C'est l'enfer.
On ne peut
pas juste ajouter une couche par-dessus pour solutionner des problèmes. Il faut qu'on change, dans le fond. Il faut qu'on pense en dehors de la boîte. Il faut qu'on change notre perspective. Écoute, l'âge médian en 2020 des Québécois, 42 ans, puis en 71, c'était 25 ans. Vieillit au Québec, oui. Là. On vieillit.
Et il doit y avoir 1 600 000 personnes de plus de 75 ans d'ici 10 ans.
Oui.
On va passer de 800 000 à 1 600 000.
Espérons qu'après tous ces rapports, qui seront déposés là, d'ici quelques mois, que là, on aura enfin, on verra enfin la lumière au bout du tunnel. Combien de fois on nous a dit le patient doit être au cœur des priorités du réseau de la santé?
Ouais.
Jusqu'à maintenant, mais, c'est plus un slogan qu'une
façon justement, de parce
gérer.
Que t'as le département de marketing, puis à côté, tes opérations, puis mettons que le département de marketing t'es pas mal plus fort que les opérations. Puis là, faut regarder les opérations. Puis dans les opérations, je trouve qu'on fait on avance dans ce dossier-là, puis il faut féliciter le gouvernement, mais c'est pas fini. Puis s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de critiquer le rapport Barrette. Tu sais, la réforme Barrette, là, ça va faire. Là, ça fait 2 ans que vous êtes au pouvoir. Deux ou 3 ans qu'ils sont au pouvoir?
Trois ans.
OK, ça va faire. Tu sais, là, maintenant, c'est votre propre gestion qui est en place, puis c'est votre propre gestion qui va déterminer si oui ou non ça marche. Là, j'ai Barrette.
Il va être content de voir que tu le défends.
Je te dis, ouais. Il va peut-être m'appeler.
Non, tu sais jamais.
La commission Normando-Ferrandaise.
Rapport des commissaires, puisque nous sommes vendredi, commissaire Ferrandaise, à vous l'antenne.
Un blanc à Yvon Michel. Un gros blanc à Yvon Michel. Jeannette Zacharias-Zapata. C'est Zacharias-Zapata. Son décès, 18 ans, tout le monde est au courant de l'affaire. Bon, pas vrai que tu pouvais pas te renseigner sur les capacités de cette femme-là. Et dans n'importe quelle compétition internationale, puisque là, on est dans l'international, hein, tu dois savoir si la personne fait le standard ou pas. Elle ne faisait pas le standard. C'était pas si difficile de le vérifier. Puis aussi, cette idée-là de faire monter une athlète locale, de faire monter sa notoriété en lui faisant avoir des victoires rapides. Moi, j'ai suivi la boxe pendant des années, toutes les années de Lucas, etc. Combien de matchs inintéressants j'ai vu gérés par le groupe Yvon Michel parce qu'ils mettaient des jambons pour faire monter des jeunes athlètes, pour faire monter leur notoriété. Mais là, ça a eu un coup. Puis la deuxième question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin de la boxe féminine? Déjà, la boxe au complet, est-ce qu'on en a vraiment besoin? À l'époque, on ne savait pas c'était quoi l'impact des coups sur les commotions cérébrales. Maintenant, on le sait. Fait que là, quand tu le sais, tu sais que la capacité de se protéger d'un athlète va faire la différence entre sa survie puis pas et non, sa non-survie. Alors, faire monter des athlètes, les faire venir du Mexique sans savoir leurs compétences, parce que c'est un domaine dans lequel il y en a moins d'athlètes, la boxe féminine. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, on peut tomber beaucoup facilement sur des cas qui ont peu de compétences, peu de capacité à se défendre.
Moi, je veux réagir là-dessus, là, parce que si tu proposes l'abolition de la boxe chez les femmes, là, pourquoi pas celle chez les hommes? Le problème, je pense qu'il est plus au niveau du chaos. On valorise le chaos dans ce milieu-là. Écoute, un chaos, tu sais ce que c'est, là. C'est comme plus tu donnes de chaos, plus tu deviens une star dans le milieu. Mais un chaos, ça peut tuer. On l'a vu avec les décès.
Oui, c'est clair. Il y a eu beaucoup d'hommes chez les hommes.
Alors, c'est peut-être
ça
qu'il faut. Oui, absolument. Mais c'est peut-être ça qu'il faut changer, dans le fond. La façon dont on exerce le sport. Je peux pas croire qu'on tirera pas des leçons de ça. Je peux pas m'empêcher de commenter.
Non, mais t'as bien raison. La question est la même chez les hommes. Je fais juste dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'athlètes qui pratiquent la boxe chez les femmes que chez les hommes, on a plus de chances de tomber sur des athlètes inexpérimentés quand on tient absolument à avoir un gars-là. Peut-être qu'on n'aurait pas dû l'avoir, ce gars-là. Les femmes afghanes. Wow! As-tu vu ça? Une manifestation de femmes afghanes contre les talibans. Tout le monde se sauve, tout le monde a peur des talibans. Des talibans, puis c'est vrai qu'ils font peur. Là, t'as des femmes qui arrivent, visage dévoilé, ils portaient le masque anti-COVID, mais ils portaient juste le hijab, ils portaient pas la burqa. Puis ils font une manif en disant, c'est pas vrai que vous allez nous tasser. Et là, peut-être que tout à coup, je me suis dit, ah, mais peut-être que l'occupation américaine a eu les 20 années ont quand même amené beaucoup, beaucoup de femmes au travail, à l'école, etc. Peut-être que ces femmes-là vont faire la différence dans la société de demain, mais quel exploit, quel extraordinaire exploit de leur part. Je voudrais dire au Texas qu'ils peuvent pas aller crever toute la gang.
Bon, ça y est.
Ils peuvent aller crever au soleil la bouche ouverte. Et attends une minute, ma gang de pas bons, est-ce? Premièrement, de revenir sur le droit d'avortement des femmes de façon aussi vicieuse, perverse, systématique et méchante. C'est une femme qui est victime d'inceste ou de viol, pourra même pas se faire avorter. Ça, là, écoute, j'ai pas de mots assez durs pour eux.
Mais là, t'as des poursuites, tu comprends? Tu t'aides quelqu'un financièrement à se faire avorter, tu peux être poursuivi. Tu vas la reconduire à la clinique d'avortement, tu peux être poursuivi. Tu comprends?
C'est extraordinaire.
Et la Cour suprême dit, on laisse ça aller pour tout de suite.
Il faut juste se rappeler que ça se passe dans la plus grande démocratie du monde.
Oui, absolument. Hein?
Fait que le Texas contre les efforts pour les changements climatiques, contre les mesures de protection sur le virus, contre les droits fondamentaux des femmes, puis contre le vote universel. Ben, allez donc crever.
Moi, je dis pour le Ferrandaise.
Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine
que je suis
que
d'accord avec ton rapport ce matin. Ben, non, je trouve que c'est de très, très bonnes observations.
Madame.
Oui, là, dans la catégorie ménager la chèvre, le chou, PSPP, le Parti québécois pour leur position sur la vaccination obligatoire. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était au début de la semaine. Oui à la vaccination obligatoire, mais sans sanction. Alors, il a pris le Parti québécois s'est logé du côté des syndicats. Et moi, j'ai trouvé ça triste parce qu'on l'a fait au détriment de la santé publique. Alors, tu sais, à vouloir défendre une position très corporatiste, c'est comme si le PQ avait vendu son âme dans sur cette question-là. Et puis, PSPP nous dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, elle nous dit, ben, t'es obligé de t'attacher ta ceinture de sécurité, mais si tu l'attaches pas, si tu te fais prendre, c'est pas grave, là, t'auras pas de sanction. C'est à peu près ça que ça veut dire.
Ça sert à rien.
Ça sert à rien, effectivement. Ouais, catégorie, vaut mieux tard que jamais. Ah, on en a parlé ici à la commission. Les classes et les écoles du Québec auront enfin leur capteur de CO2. Ben oui, mesdames et messieurs. Thomas Gerbet du Radio-Canada nous a appris que 90 000 capteurs, tenez-vous bien, 75 millions. Là, tu fais un petit calcul, ça revient à peu près à 833 $ du capteur. Je sais pas s'il y a un petit bonus qui vient avec ça, quelque chose, mais puis j'espère que ça comprend l'installation, mais moi, je trouve ça cher, le 833 $ pour un capteur de CO2. Moi, je connais pas ça, capteur de CO2, là, mais...
Mais tu sais qu'il y a un slogan qui vient avec l'installation,
oui,
c'est
quoi donc?
Prêt pour la prochaine pandémie.
Ouais. Non, mais honnêtement, tu trouves pas ça cher, 833 $?
Ben, je sais pas, les frais d'administration. Quand tu vois combien ça coûte pour faire un mur en moellon de béton, là, dans une école, 100 000 $, là.
Ah non, je sais. Prix Orange, en terminant, ben, pour nos gentils pirates informatiques, nos pirates sympathiques qui ont fait leur collaboration au gouvernement pour trouver les failles du VaxiCode. Là, le gouvernement s'est repositionné dans ce dossier-là et j'espère qu'on aura à l'avenir une marche à suivre pour obtenir formellement la collaboration sur le plan gouvernemental de ces pirates informatiques.
Embaucher des hackers.
Oui. Oui, monsieur.
C'est ça qu'il faut faire. M. Kerr, d'ailleurs, va faire un emploi, semble-t-il, ou offre un emploi... À Louis.
À Louis.
Oui, Louis.
Mais comme il n'y a pas de nom de famille.
Bon, c'est bon. Employé fantôme.
Ouais.
Merci, bon week-end. On vous retrouve mardi, 9h04.
C'est 23.